RTL.
Vos plus belles années.
Vos plus belles années. Patrick Sébastien.
Rémi Castillo.
Sur RTL.
Bonjour à tous, bonjour Patrick et bonjour à notre invité Harry Roselmack.
Je suis content
de recevoir des journalistes quand ce sont des journalistes de qualité. Mmh. On ne se connaissait pas avec Harry, on ne se connaissait qu'à travers les relais
qui
se passent à travers la vie.
Bien sûr,
12h30. Et puis je le regarde à la télévision, j'ai suivi son arrivée sur TF1 avec tout ce que ça supposait de symbolique. Mmh. Et il fallait encore plus prouver qu'on était un bon journaliste parce que c'est surtout pour ça qu'il y est, et c'est en priorité pour ça qu'il y est. Et j'aime beaucoup ce garçon. T'expliquer pourquoi, je sais pas. Mm-hmm. J'ai la sensation, n'écoute pas ce que je veux dire, que ce garçon est intègre.
Oui.
Voilà.
Intègre, honnête.
C'est la qualité première. Ça me faisait très plaisir et j'avais très envie de te recevoir, toi qui es né en 1973. Mais quelle horreur.
Ah, il est jeune. Hein.
J'avais 20 ans. Tu es de quel mois ?
Je suis du mois de mars. Mm-hmm. Du 20 mars.
Bélier. Donc un bélier.
Mm. Je suis donc un poisson.
Un poisson, ah oui. Comme disait Carlos, je suis poisson, c'est le liquide qui me soutient et la queue qui me dirige. Mais là, ça n'est pas le cas. 1973, tu nais à Tours,
oui,
de parents martiniquais.
C'est tout à fait ça.
Est-ce que tu parles encore créole ?
Je m'en rappelle à l'école de temps en temps, oui.
Tu as été éduqué.
Pas capable d'un très bon créole, je ne parle pas un très bon créole parce que je suis né ici et j'ai grandi ici, mais j'aime bien le parler avec des amis ou quand je suis là-bas avec de la famille.
Tu te sens tourangeau ou tu te sens martiniquais ?
Ça, c'est une sacrée question. Je vais dire que je me sens martiniquais parce que, peut-être paradoxalement, mais ça a été une démarche que de me sentir martiniquais, que d'être martiniquais, que d'adopter à la fois la langue créole, la culture, le folklore martiniquais. Ça a été une démarche puisque je n'y vivais pas. Je suis tourangeau de façon évidente puisque j'ai grandi là-bas, j'avais pas d'effort à faire pour adopter. Les us et coutumes de la région tourangelle.
Le soleil n'est pas le même et la bouffe n'est pas la même.
Mais c'est vrai que par le biais des associations culturelles, on était à Tours, quand j'étais gamin, avec mon frère et ma sœur, on était quand même proche de cette culture-là parce que mon père faisait partie d'une association.
T'as dansé
J'ai dansé.
T'as fait la totale
Avec les chemises à fleurs et les petits shorts blancs. On détestait ça d'ailleurs à l'époque, autant vous dire.
T'as pas fait le limbo quand même.
Non.
Tu connais le limbo?
Ah oui, le limbo, c'est faut passer sous une barre. C'est ça. C'est physique, ça. Hein,
vous étiez beaucoup d'Antillais à l'époque, dans la région tourangelle. Parce que je sais que vers Nantes, tout ça, il y en avait beaucoup, beaucoup. Beaucoup de Guadeloupéens.
Ouais. Pas très visible comme ça, a priori, mais le réseau était quand même assez important. Et lorsqu'on allait dans les soirées antillaises, on voyait des gens qu'on voyait d'ailleurs pas forcément quand on se baladait dans la ville. Mais on se rendait compte qu'il y avait quand même beaucoup d'Antillais et qui étaient très attachés à leur culture.
Et... on est en 1981 et tu es très marqué par la passation de pouvoir entre VGE et Mitterrand, c'est-à-dire quand c'est un grand moment de théâtre, quand Giscard s'en va en disant au revoir.
Alors pourquoi
ça t'a marqué ça ?
Pourquoi avoir choisi cet événement ?
Je n'en sais rien. J'en sais rien, c'est mon premier vrai souvenir d'information télé. Je sentais que c'était un moment important. J'en ai pas eu une appréciation politique. Je me disais pas c'était bien ou c'était pas bien. Je me disais c'était important. Parce que,
j'étais
avec mes parents, je regardais ce moment-là et je sentais que c'était important. À la fois par l'attention que mes parents portaient à ce qui se passait à la télé et puis en même temps par encore une fois, la sonalité de l'événement.
Tu avais dans la tête à 8 ans l'avenir. Il y en a qui ont le déclic à 7-8 ans, regarder la télé, dire je veux faire ça, je veux faire de l'info, je veux faire des reportages.
Non, pas à 8 ans. Je l'ai eu assez tôt, mais un peu plus tard.
Qu'est-ce qui l'a déclenché?
Ce qui l'a déclenché, c'est la radio.
Ah bon?
C'est la radio, ouais.
Parce qu'avant de faire de la télé, il a fait beaucoup de radio aussi.
Oui.
Mais on va en reparler tout à l'heure et on va évoquer la passation de pouvoir entre VGE et François.
Et tu sais que c'était une première, justement, Patrick. C'est peut-être pour ça que c'était si important pour Harry, puisque en 1965, le général de Gaulle s'était succédé à lui-même. En 69, le général de Gaulle avait démissionné. Et en 74, Georges Pompidou venait de décéder. Donc, c'était une première
fois qu'il y en a un qui se barrait.
Pouvoir, voilà, exactement. Et donc, on va retrouver les commentaires de Michel Cotta, puisqu'à l'époque elle était sur RTL, et on va se retrouver au moment de l'arrivée du nouveau chef de l'État, qui, comme vous allez l'entendre, était salué par une musique très protocolaire. Donc un moment solennel, avec au commentaire encore une fois, Michel Cotta sur RTL.
Le voilà, ça y est, voilà la musique de Lalande. Tout le monde s'immobilise au garde à vous. Le président est sans doute dans le couloir.
Il se rapproche. Monsieur le président de la République.
Voilà, il est précédé d'huissier à chaîne. Il est vêtu de gris avec une cravate bordeaux, une chemise bleue. Il est assez solennel. Il regarde la foule devant lui, sans un sourire, mais plutôt gentiment.
Ah, le commentaire aussi est solennel.
Génial. Et puis cette voix, elle parle à mi-ton,
comme ça, Denis Glaser.
C'est émouvant.
C'est très, très, très. Mais c'est toujours émouvant, une passation de pouvoir, parce que même, à part les extrémistes complets qui détestent le mec qui s'en va, je trouve que même quand on n'est pas du camp, voir partir le mec, ça a quelque chose de touchant.
Oui, puis là, c'était vraiment de l'intérieur. On le vivait, on entendait les bruits.
C'est compliqué à commenter. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font ce genre d'exercice, que ce soit même pour le sport. Obligé de décrire la couleur de la cravate, la chemise,
maître,
etc.
C'est un trône. Si tu as l'occasion, je ne sais pas si tu l'as vu, mais si tu as l'occasion pour le plaisir de te refaire le mariage de
Lady Di et de Lady Di,
c'est un chef-d'œuvre de commentaires, de précision, d'intelligence. Et puis du jeu. Parce qu'il vit le truc, c'est formidable. On va reparler d'un grand journaliste.
Oui, forcément, Patrick Poivre d'Arvor. On ne pouvait pas, dans notre émission à base d'archives, ne pas évoquer PPDA parce que
consacrer sa vie à l'information en délaissant les histoires amoureuses, c'est formidable.
Parce qu'effectivement, l'arrivée d'Harry, c'était pour être le joker sur TF1 de Patrick Poivre d'Arvor, qu'on retrouve d'ailleurs très régulièrement maintenant sur RTL dans le cadre dont refait le monde.
J'aime pas du tout ce mot, le joker Poivre d'Arvor, mais j'aime pas du tout ça.
C'était le terme à l'époque, c'était joker pour l'été. C'était comme ça que traduisait l'arrivée d'Harry. Alors on est en 1981 et Patrick Poivre d'Arvor était à l'époque âgé de 33 ans. Donc on a choisi un document qui peut
effectivement... Il a eu 33 ans ?
Il a eu 33 ans, Patrick. C'était en 1981 forcément, donc ça peut parler à Harry qui a une trentaine d'années, 37 je crois.
C'est ça.
Il était l'invité...
En fait, il a favorisé Harry parce qu'il a moins de cheveux que lui.
Ça c'est un coup, hein, Patrick. Il était l'invité d'un autre Patrick, donc Sabatier.
En même temps, moi c'est volontaire si je peux me faire.
Je sais.
C'est joli. Et Patrick Sabatier lui avait demandé de faire un point sur sa carrière et de nous donner ses envies pour l'avenir. On écoute la réponse de Patrick Poivre d'Arvor en 1981 sur RTL.
Aujourd'hui, je sais que tout va beaucoup trop vite et que tout est allé beaucoup trop vite, donc je ne sais pas ce que va me réserver l'avenir. Je sais qu'en tout cas, je ne passerai pas ma vie à présenter les informations à la même heure. Je ne veux pas devenir... un fossile, je ne veux pas devenir quelqu'un qui s'accroche. Je partirai à un moment donné, je ne sais pas encore quel moment, mais... Je souhaite rester dans l'audiovisuel pour l'instant parce que c'est formidable. Il y a tellement de choses à faire et je trouve c'est un moyen de communication inouï. J'ai envie d'écrire un roman, peut-être qu'un jour je l'écrirai vraiment. Et puis j'ai envie de faire du cinéma aussi un jour.
J'adore Patrick, mais il a jamais fait autant de télé depuis qu'il en fait plus.
C'est vrai.
Au-delà de vos qualités journalistiques qui sont indéniables, vous avez quand même un point commun tous les deux. Vous avez du charme. Et est-ce que ça rentre en ligne de compte, à ton avis, dans le choix que font les patrons de se dire ces mecs plaisent aux femmes et aux hommes? Parce que je suppose que tu dois avoir des sollicitations en tant qu'homme, comme a eu Patrick, toi encore plus, des sollicitations d'hommes à mon avis aussi. Tu dois avoir les deux.
Ça m'est arrivé, mais c'est pas très fréquent, à vrai dire. Mais
tu sais que tu plais, tu sais que tu plais, tu sais que...
Oui. Maintenant, est-ce que les patrons de TF1, au moment où ils m'ont fait venir... On avait pleinement conscience, je ne sais pas. Faudra leur poser la question. Je suis pas sûr.
Alors, c'est un vrai problème.
À la télévision,
c'est un vrai problème dans l'info aujourd'hui. C'est-à-dire que tu vois toutes les journalistes qui arrivent. On a posé la question à Jean-Claude Bourré l'autre jour, qui n'était pas du tout dans ce cadre-là. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont. Si tu regardes LCI, par exemple, les filles sont belles, jolies. Ça n'a rien à voir. Il faut d'abord qu'elles aient les compétences, d'accord. Mais à compétences égales, est-ce qu'on ne prend pas plutôt, effectivement, quelqu'un qui est agréable à regarder, tout simplement.
Dans un métier d'image, j'imagine que le physique a une importance, mais c'est vraiment, comme tu le disais à l'instant, je pense que c'est vraiment pas l'argument principal.
C'est pas l'argument premier, je suis d'accord.
Et j'irai même plus loin, je pense que l'attractivité qu'on peut avoir vis-à-vis du public, ou enfin, je sais pas si on peut appeler ça charisme, ou en tout cas l'incarnation qu'on peut donner de ce qu'on fait à l'antenne, ne dépend pas de sa plastique, ça dépend d'autres choses.
Surtout que ça marche à la radio, et puis à la radio, ta plastique...
Bien sûr. Tout à fait.
mais Harry était moins dans la séduction quand même que Patrick Poivre d'Arvor, hein, parce que Patrick c'était vraiment...
La différence c'est que Patrick est dans la séduction volontaire.
Oui, voilà.
Je pense qu'Harry est dans une séduction involontaire. C'est un beau mec, mais...
Non, il en joue moins quand même.
Attends, on a quand même deux mecs entre lui et Delahousse qui est sur la 2. Je veux dire, on a deux mecs qui sont des beaux mecs. Moi, je connais mes copines autour, je sais ce qu'elles pensent de vous, les enfants. Attends, je les vois parler, je les écoute parler.
Non, mais je pense que...
Ma petite fille qui a 3 ans, c'est quand elle voit Delahousse, c'est le chouchou à maman et tout.
Le chouchou à maman? Ah bon?
Ah ouais, c'est Georges Clooney et Delahousse dès qu'elle les voit.
Ça fait des ennemis, tout ça. Mais pour revenir à Patrick, moi, je pense que c'est vraiment dans sa façon d'être. Je suis même pas sûr que ce soit...
C'est un séducteur.
Oui, je pense pas que ce soit quelque chose de joué.
Non, il le force pas. Il est comme ça, naturellement.
Et même, voilà, vis-à-vis de. Enfin, moi, la relation que j'ai avec lui, c'est aussi la relation de quelqu'un qui veut faire plaisir et qui.
Est-ce qu'il se comporte comme un papa avec toi ?
Non, pas jamais. Il l'a jamais fait. Il a trop de finesse et de tact pour ça. Mais il m'a toujours dit que sa porte était ouverte quand je suis arrivé. Notamment par son intermédiaire d'ailleurs, il m'a toujours dit que sa porte était ouverte et il aurait toujours été là si j'avais eu besoin de lui. Mais il
pourrait être paternel, tu vois, dans les conseils, dans les machins.
Non,
tout
c'est
ça.
Pas du tout le genre.
On va écouter un générique TV de 1981.
Alors, comme Harry avait 8 ans en 1981, je pense qu'il regardait ça. Alors, Harry,
Capitaine Flamme.
Est-ce que tu es prêt à chanter ? On y va !
Capitaine Flamme, tu n'es pas.
Alors, c'est Jean-Jacques Debout
qui a composé
et qui chante.
Alors c'est quelqu'un qui est moins connu, c'est Richard Simon.
Voilà.
Et c'est une chanson quand même qui est restée dans l'inconscient collectif
dans les boîtes
et
de
qu'on
nuit,
continue à chanter.
Le plus beau rouquin de l'univers quand même, le Capitaine Flamme.
Un extrait de film.
Oui, un film que devrait reconnaître là encore Harry, parce que je crois qu'il est fan de ce réalisateur. On va retrouver deux hommes au profil très différent, mais qui étaient réunis pour la même cause.
Vous n'allez pas vous fâcher si je vous dis quelque chose ? Dans le fond, c'est encore grâce à moi si on a retrouvé sa piste. Voilà. C'est vrai, si j'étais pas allé au Sony Club,
80.
J'aurais pas invité la petite blonde à boire un verre. Ah oui. Les types
français
auraient appliqué mon argent et on n'aurait pas retrouvé.
Pierre Richard.
Pierre Richard Depardieu.
Gérard Depardieu, oui.
Je crois à la logique.
C'est la chèvre,
c'est. Oui, c'est la chèvre. De Francis Weber. Et Gérard Depardieu a également tourné pour Francis Weber dans d'autres films que tu connais, Patrick, forcément. Il a retrouvé Pierre Richard aussi.
Il y a les compères.
Les compères en 83.
Le placard.
Le placard en 2000. Les fugitifs en 84. Et il y en a un dernier. Qui va être de circonstance parce qu'on va s'interrompre pour la pause. En 2002, tais-toi.
Ah bon, d'accord.
Voilà.
C'était pas le plus réussi.
Mais on marque une pause.
On marque une pause.
RTL.
Vos plus belles années.
Avec Harry Roselmack.
On est en 2006 avec Harry Roselmack. Il présente son premier JT sur TF1. Alors moi, ce que je veux savoir, c'est à 5 minutes de présenter son premier JT sur TF1. À qui on pense ? Est-ce qu'on pense à papa ? Est-ce qu'on pense à maman ? Est-ce qu'on pense aux copains d'enfance ? Est-ce qu'on pense aux copains de radio d'avant ?
Non. On pense à contrôler sa respiration et à avoir assez d'aplomb pour commencer, pour dire bonsoir et pour enchaîner les titres et pour enchaîner son journal.
Ce truc-là, t'as 100 000 fusils braqués sur toi. T'as tout un tas de mecs qui sont là. T'as d'abord les gens qui t'aiment, t'as tous les gens qui vont te juger.
Il y a dû avoir un stress.
Mais ça m'a d'autant plus explosé à la figure que la nuit d'avant, j'ai dormi comme un bébé. La journée s'est très bien passée. J'étais zen. La préparation du journal, parce que j'avais été aussi très bien encadré, très bien accueilli par TF1. Et ça avait été quelque chose qui m'avait beaucoup rassuré. Parce que quand vous arrivez dans une chaîne qui a en plus cette réputation, vous vous dites « Oh là là, on va m'attendre avec des famas à chaque coin de couloir. Ça va être infernal. » Et au contraire, j'avais eu un super accueil. Donc, j'avais pu décharger tout ça. Et j'étais vraiment mise en confiance par tous les gens qui m'entouraient. Et je me suis donc assis dans le fauteuil du 20h face à la caméra. Et il y a eu un déclic au moment où, parce que vous avez des retours et vous voyez ce qui se passe à l'antenne, où Evelyne Delia dit avec un... J'ai senti un brin d'émotion dans sa voix. Dit, dans un instant, le journal d'Harry Roselmack. Et là, vous entendez votre nom, vous entendez le journal. Wow. Il est bientôt 20h.
Et là, ça part à fond la caisse. Est-ce que le sport que tu pratiques... Tu as pratiqué beaucoup de judo et tout. Est-ce que ça t'a aidé justement à te zénifier ?
Très certainement, oui, je pense, parce que effectivement, la gestion du stress, c'est aussi quelque chose que vous apprenez à maîtriser quand vous faites de la compétition sportive. Et c'est sûr que ça aide, c'est sûr,
certain. Alors voilà, c'est en 2006 et on a tes impressions d'avant.
Les impressions d'Harry sur RTL. Alors ce qui est amusant, c'est qu'Evelyne Delia.
Après, on aura les impressions du public après.
Après, voilà, un bond d'émotion. Et Evelyne était notre invitée justement le week-end dernier, dimanche, il n'y a pas de hasard. Hein.
Juste avant.
C'est amusant.
Et je te parlais de papa et de maman. Il y a quand même un coup de téléphone après ou un moment de fierté, non ? De papa et de maman, non ?
Après, oui, je les ai eus effectivement au téléphone. Je leur ai demandé. Alors, eux, ils l'ont vu à la Martinique. En plus, ils avaient une caméra dans le dos, les pauvres, parce qu'il y avait RFO qui était là pour recueillir leurs impressions, etc. Et je leur ai demandé comment ils avaient trouvé. Et ils étaient, je pense, effectivement très fiers. En tout cas, ils ont dit que le journal était bien et que voilà.
Ça doit être un moment de parents génial.
On aura peut-être aussi leurs impressions sur RTL, mais je n'en dirai pas plus. Alors, les impressions d'Harry avant. On rappelle que ce premier journal, c'était durant l'été 2006. Et Stéphane Boustock, à l'époque, présentait le 13h sur RTL. Et alors, il avait joint Harry à moins de 8 heures donc, de son premier direct. Vous allez nous livrer vos impressions. Harry, vous vous souvenez de ce que vous aviez dit sur RTL à cette
époque ? Pas tellement, non.
Vous aviez... Mais... envie, a priori. C'est ce que vous allez nous dire. Et puis, vous nous parlerez aussi de la façon dont vous gériez toute cette pression médiatique. Harry Roselmack était déjà sur RTL le 16 juillet 2006.
L'envie, elle est présente depuis quelques semaines maintenant. C'est effectivement un petit peu de pression, même si j'ai passé un bon week-end, j'ai passé une bonne nuit. Mais vous, chers confrères, quand je regarde les journaux ce matin, je vois ma tête
oui, partout,
en une ou dans les pages intérieures, ça met effectivement un peu de pression, mais ça va. Il faut effectivement passer par là, même si c'est pas une corvée, hein, mais c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant si on relativise pas.
L'un de vos plats préférés, c'était la fricassée de lambi, qui est un plat antillais, et un petit punch. C'est ce que vous avez programmé après le 20h, si ça se passe bien ?
Qui sait, peut-être. C'est peut-être la bonne surprise qui m'attend après cette journée qui risque d'être tout de même assez forte en émotion.
Alors ?
J'ai pas eu la fricassée de lambi. Non, mais. Oui, c'est ça, effectivement. Au ton de ma voix, je sens qu'à ce moment-là, d'ailleurs, j'étais encore assez zen. Ça aurait pas été possible, mais je pense qu'un quart d'heure avant l'antenne, là, ça aurait pas été la même chose.
C'est quoi les défauts d'Harry Roselmack ? Parce que.
On a l'impression qu'il n'en a pas.
Hein. Ouais. Oh, si, bien sûr que j'ai des défauts. Ce serait à mes proches de les citer, mais je pense que je suis quelqu'un d'assez entêté. C'est-à-dire que je défends.
Quand tu veux quelque chose ?
Quand je veux quelque chose, je
C'était un but, ce fauteuil du 20h ?
Non, pas du tout. Je me suis jamais imaginé présenter le journal de 20h.
C'est qui le mec qui t'appelle ? Le mec qui t'appelle pour te dire on a besoin de vous ?
Et c'est Patrick Poivre d'Arvor qui m'appelle pour me dire Patrick Lelay veut te parler. Et ensuite, j'ai l'assistante de Patrick Lelay. Puis Patrick Lelay qui me donne rendez-vous...
Au 14e.
Non. C'était dans son appartement parisien, il y a presque...
On a les impressions du public après.
Et oui, forcément, parce que les publics, je présume qu'il y a dû avoir des analyses, des courbes, est-ce que le public était resté, pourquoi, comment, les chiffres avec la direction de TF1. Et bien sur RTL, on est allé sonder le public, alors on va écouter leur réaction.
T'as déjà entendu ça ?
Non, je ne crois pas. Hein. Vous allez pouvoir constater, auditrice, auditeur d'RTL, et puis Harry, évidemment, que ses réactions étaient plutôt positives.
Moi, je trouve qu'il parle bien, il présente bien, il est beau.
Il a un petit peu un regard, un visage un peu charmeur quand même.
En tant que jeune, on s'est un peu plus concerné. C'est bien, on reste concentré sur l'info en elle-même.
Il faut voir la personne, pas pour sa tête, mais s'il est intelligent.
J'envisage de devenir journaliste. Je me disais qu'en tant qu'antillaise, c'est vrai que de voir Harry Roselmack, je me suis dit pourquoi pas.
Bonne soirée.
Tous les Antillais ont été contents.
Pas tous, tout le monde n'est jamais content, mais une grande partie de la communauté antillaise, mais même plus que ça, parce que moi je me suis jamais posé en représentant la communauté antillaise surtout. Enfin, je veux dire, si je représente quelque chose, c'est la diversité dans son ensemble.
La différence,
mais c'est pas du tout les Martiniquais ou les Antillais, mais je crois que...
Pas la différence, ce qui devrait être normal, l'intégration normale, mélange normal.
J'ai jamais croisé en tout cas un Antillais qui m'exprimait quelque chose d'autre que sa fierté et voilà. J'ai jamais personne qui m'a dit c'était nul ou ça nous fait du tort.
Ça bouge quand même.
Ça bouge pas de la même façon aux États-Unis qu'en France. En France, on en est encore au stade des nominations, qui sont parfois spectaculairement symboliques comme la mienne aux 20h, mais qui sont encore de l'ordre de la nomination. Aux États-Unis, on est déjà dans l'ère de l'élection, ce qui est tout à fait autre chose. Et c'est le résultat, là, pour le coup, de 40 ans de lutte, d'abord pour les droits civiques, et ensuite, c'est allé super vite. Hein. Les droits civiques, il y a un peu plus de 40 ans, et déjà un président noir. Enfin, ça va très très vite.
Le plus populaire en France, c'est noir.
Bien sûr.
Toi, au journal, l'équipe de France, etc.
Oui, il n'y a pas de frein à tout ça. Et
faut pas
nommer quelqu'un parce qu'il est noir, mais c'est pas parce qu'il est noir qu'il ne faut pas le nommer non plus. Enfin, il y a un équilibre à trouver.
Ouais, mais je crois qu'on est en train d'y arriver. C'est pas si mal que ça.
Et tant mieux.
Un petit générique TV.
Oui, générique d'une émission à laquelle tu as participé, Patrick. Et si tu veux que je t'aide, je te dirais que tu n'y participeras plus.
Ah non.
Tu l'as reconnu ?
Bah ouais, bien sûr.
Alors
Ardisson.
Oui. Est-ce que Harry...
Ça fait 20 ans que je dis que j'y participerai plus.
C'est Salut les Terriens, voilà, sur Canal+.
Ça fait 20 ans que j'ai dit que j'y participerai
plus. Le samedi à 19h.
Je connais Ardisson par cœur.
Et ça démarre en 2006.
Et qu'à chaque fois, on se fait baiser sur le montage. Et qu'à chaque fois, il fait le montage quand même.
Mais écoute, moi, j'ai participé à cette émission et j'en garde de bons souvenirs comme quoi.
Ouais, mais moi, je me suis fait. À chaque fois, je me fais avoir sur le montage. Il monte comme. Enfin, c'est Thierry. Mais j'aime bien. Hein. J'aime bien la regarder.
On peut lui faire un petit clin d'œil parce que depuis samedi dernier, il présente maintenant un jeu Happy Hour. Et ça se passe le samedi à 19h. Voilà, depuis le samedi dernier, depuis le 3 juillet.
Super.
Bon, salut. Mm-hmm.
Extrait de film.
Oui, un film qui devrait faire plaisir à Harry.
C'est pareil, il faudrait qu'il soit.
Ah bah oui.
Ma femme et moi, nous prendrons la petite fille. Nous avions l'intention d'en adopter une depuis longtemps.
On
Elle
est en 2000.
Chez nous.
6 ?
Non.
Oui. Et que ferons-nous du petit garçon ? Sur Tatooine.
Oui, oui, c'est la guerre des étoiles.
Oui, la guerre des étoiles, absolument.
Et c'est ça, c'est sa génération, ça.
Et, oui, et c'était le sixième opus de la saga, la guerre des étoiles. C'était la revanche des Sith, film évidemment de George Lucas, parce que Harry adore la science-fiction et notamment la guerre des étoiles.
Oui.
Et ben, on en reparlera. On a la pub tout de suite et la belle Olivia Ruiz. Mmh. Voilà, je traîne des pieds. Et après, on fera notre petit quiz.
Voilà, c'était le succès de l'année 2006, choisi par Harry.
RTL. Vos plus belles années avec Harry Roselmack.
Sur RTL, je traîne des pieds.
Alors, notre quiz, on va essayer de retrouver un événement d'après un document RTL. Mmh. Et puis, si tu sais, tu dis rien, on dira après.
Bon, en l'occurrence, c'est assez facile, donc je ne vais pas vous donner d'indice. Sachez simplement que vous allez retrouver un chanteur qui va vous interpréter un de ses grands succès.
On va parler de l'événement après les infos.
Oui, est-ce que Harry a déjà une petite idée sur le chanteur,
c'est Johnny Clegg. Oui, mais l'événement...
C'est en on va en parler après.
Chercher.
C'est en quelle année Johnny Clegg, donc c'était pour l'interprète. Alors tu veux l'année?
Tu vas nous donner l'année, tu nous donnes la réponse.
Mais oui, je vous donne la réponse. Allez, je vous le donne. C'est quand même, c'était en 1994. Voilà, vous cherchez de l'autre côté du poste et tout de suite on s'informe. Place à l'actualité, il est midi sur RTL.
RTL. Vos plus belles années.
Vos plus belles années.
Patrick Sébastien.
Rémi Castillo.
Sur RTL.
On est de retour avec Patrick et on est ravi d'accueillir aujourd'hui Harry Roselmack.
Et juste avant les infos, on avait un petit quiz où on entendait chanter Johnny Clegg et c'était en 94. Alors à ton avis, ça peut être quoi, Harry?
Ça peut être lié à... Nelson Mandela, non?
Par exemple.
Ça serait pas sa libération, par exemple.
C'était le titre à Simba Linga. Non, l'élection.
L'élection.
Oh, oui. Puisqu'il a été élu président d'Afrique du Sud, précisément le 10 mai 1994. C'était tout un symbole. Ouais. Je crois qu'Harry, justement, y a été très sensible. C'est pour ça qu'on avait choisi cet événement. Et on rappelle quand même qu'il avait été condamné, Nelson Mandela, à la prison à perpétuité, qu'après 27 ans, grâce à Frédéric de Clercq, qu'il avait été libéré. Et donc, on va le retrouver le 10 mai 1994.
Ça serait bien qu'on n'oublie pas de Clercq d'ailleurs dans l'histoire.
Absolument.
Parce que c'est très important.
Ils avaient reçu d'ailleurs un prix Nobel de la paix ensemble en 1993. Ouais. Alors on va écouter son sermon depuis Pretoria et juste avant Bernard Lehu d'RTL qui était sur place.
Le président de la Cour suprême lui a demandé de lever la main droite et de le jurer sur la Bible avec l'aide de Dieu.
Will you please raise your right hand
and say, Sir, help me God. So help me God.
Voilà, et nous on va se retrouver en 1992 où tu vas aller, Harry Roselmack, tu vas aller au JO de Barcelone.
De Barcelone.
Pour quelle maison à l'époque ?
Eh ben pour aucune maison, j'étais étudiant en journalisme à l'IUT de Tours et l'anecdote est assez sympa parce que j'étais avec quelques potes de promo, on était les derniers à ne pas avoir de stage, j'avais la plupart de mes collègues de promo qui avaient des stages dans la PQR, la Voix du Nord, en Ouest-France, à la Nouvelle République du Centre-Ouest, etc. Et nous, on n'avait pas de stage. Et je passe dans le couloir de l'IUT et je vois une petite annonce d'une association qui cherchait des étudiants en journalisme pour raconter la vie d'un campus étudiant. Parce que figurez-vous qu'il y avait 1000 élèves hôteliers français et 1000 élèves hôteliers espagnols qui étaient dans un vaste camping à quelques kilomètres du centre de Barcelone. Et c'est eux qui faisaient à la fois la nourriture et qui servaient les repas aux athlètes au village olympique. Et donc, ils cherchaient des étudiants journalistes pour raconter la vie de ce village. Mmh. Et donc, on a passé un mois et demi près de... Ah, mais c'était super.
Tu as la conscience du temps qui passe vite, comme ça ? Ou tu te dis, je suis en plein dedans, là, ça va, j'y pense pas.
Vous m'en faites prendre conscience en faisant écouter des choses. C'est bien parfois de se retourner, parce qu'on est dans une société où on regarde devant et où on avance et où on court, c'est bien de temps en temps de s'arrêter, de regarder un peu derrière.
C'est cette émission, on l'a faite avec un mot d'ordre, c'était de savoir d'où on vient, nous aide à comprendre où on va. Les Jeux Olympiques de 92, justement, oui. Où tu étais.
On va écouter
quelques trucs. Ah, c'est vrai que Marie-Jo gagne pour la deuxième fois, je crois.
Marie-Jo gagne effectivement sur 400 mètres pour la deuxième fois, mais elle remporte plusieurs courses, j'ai pas envie de dire de bêtises, je me demande si elle a pas deux ou trois médailles, mais moi j'étais là. Le 100 mètres, moi.
Oui, le 100 mètres et puis la Dream Team aussi, je crois, le basket.
Et la Dream Team, j'ai vu le bus passer. J'étais comme un dingue.
Le 5 majeur, on se souvient des noms ? Michael Jordan.
Bah oui.
Magic Johnson.
Magic Johnson.
Charles Barkley. Larry Bird et Patrick Ewing. C'était le 5 majeur. Et ils avaient gagné, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en Croatie. Oui, tout, avec à chaque fois des écarts énormes de plus de 40 points. Et en finale, ils avaient gagné avec 32 points d'écart.
C'est plus des sportifs, c'est des magiciens.
Face à la Croatie. Alors, on va revenir effectivement aux 100 mètres parce que ça avait marqué Harry à cette époque.
C'était qui ?
Alors, tu t'en souviens ou pas ? Il était britannique. Il se prénommait Linford.
Christie.
Linford Christie, absolument. Il devenait d'ailleurs.
Il n'était pas dopé.
À 32 ans, je ne sais pas, Patrick. Je n'étais pas avec lui juste avant la course. À 32 ans, il devenait le champion olympique le plus âgé, quand même, du 100 mètres. Vous vous souvenez en quel temps ? Non ?
Je ne sais pas, mais je sais qu'ils n'arriveront jamais à faire 5 secondes, 6.
Non, ça, c'est clair. On va écouter les commentaires de Guy Kedia sur RTL.
Ils sont partis maintenant avec un avantage peut-être à la 4 pour Michel, alors que c'est très très serré. Oui, c'est à la 5 champion, ça va être Christie. Il me semble que c'est Christie qui est champion olympique. Linford Christie, le britannique. Linford Christie qui est parti comme un avion et qui remporte le titre olympique en 9,96. Linford Christie, le britannique. Superbe course de Linford Christie.
Ce qui est formidable dans le commentaire du 100 mètres, c'est ce que tu dis, juste le temps de la course. Tu veux pas me le remettre là ? Parce que pour le commentateur, ce que tu dis, le temps des 10 secondes.
Mais ça va tellement vite.
C'est c'est parti, ils arrivent. Vas-y,
c'est pas donné de nom.
C'était super serré.
Juste la course, la course.
9 secondes 96 exactement.
Allez, ils sont partis maintenant avec un avantage peut-être à la 4.
Il peut rien dire.
Alors que c'est très très serré.
Et c'est qui ?
C'est le champion, ça va être Christie. Il me semble que c'est Christie.
Voilà, et il répète plusieurs fois que c'est Christie.
Voilà, c'est lui.
Ce qui est hallucinant, c'est que vous entendez le brouhaha derrière la voix du commentateur. Ouais. Alors imaginez-le dans le stade.
Tu fais partie du brouhaha.
C'est 100 fois plus fort.
T'es loin de la piste ?
Je suis assez loin de la piste, je suis ligne droite opposée. Mais ce qui est super impressionnant, c'est que pendant 20 secondes avant le coup de feu, c'est un silence total. C'est-à-dire que le stade est plein comme un œuf. Il y a je ne sais pas combien de milliers de personnes. Aucun bruit. Le silence total. Et au coup de feu, là, on entend les gens qui se mettent comme ça, encouragés. Et ça tonne de façon étonnante.
Est-ce que c'est dans le sport qu'on a les plus belles émotions ?
Je crois que le sport fait partie des moments de vie où on a effectivement des émotions qu'on rencontre à quelques moments très précis de la vie, mais très rares. Et le sport, ça permet effectivement d'avoir ces moments-là de façon régulière.
Tu as gagné en compète de judo ?
Oui, ça m'arrivait.
Tu as eu un titre ?
Ça m'arrivait. J'ai eu des titres. J'ai même eu un titre national scolaire et j'ai eu des titres régionaux, interrégionaux.
Et là, tu continues pour le pied ?
Et là, je continue à regarder pour le pied. Non, non, malheureusement, je me dis, chaque année, je me dis, il faudrait que je reprenne.
Non, parce que là, t'es taillé comme un athlète. Là, tu t'entretiens.
Ouais, j'ai surtout de bons gènes, mais je fais un peu de sport. Mais je...
Ah, je croyais que t'en faisais beaucoup.
Non, non, non.
Générique TV de 1992.
Oui, c'est une série américaine. Alors, si vous voulez que je vous aide, voilà, il y a un homme, un ex-champion de baseball, pour rester dans le sport. Voilà, qui déménage et qui va devenir un homme à tout faire. C'est exactement ça. Tony Danza qui jouait le rôle de Tony Mitchell Lee. Ouais. Et c'était Madame et Service.
C'est ça.
Voilà. Extrait de film. Français ?
Oui, alors non, c'est pas un film français, c'est un réalisateur dont on a beaucoup parlé il y a quelques semaines. C'est une séquence assez musclée.
J'adore les grands types baraqués qui n'ont pas peur de jouer.
Le mec qui était à Cannes, quoi.
J'adore les types baraqués.
En douceur, c'est mon dépucelage.
Réalisateur qui était à Cannes.
Burton ?
Oui. Tim de son prénom ?
Chocolatière, non ? Chocolaterie.
Non, c'est pas Charlie la chocolaterie. Je complète ton titre.
Non, je suis chocolatière parce qu'il y a un film français qui s'appelait comme ça.
Non, là c'était Michel Pfeiffer. Il y avait également Danny DeVito, Michael Keaton.
C'est un Batman.
Oui, bah Batman le défi, ouais. Absolument. Il avait permis d'ailleurs Tim Burton à Michael Keaton de faire ses débuts dans Beetlejuice.
Eh bien, nous allons écouter un petit peu de pub et puis nous allons attaquer la dernière année d'Harry Roselmack, la dernière belle année qui, à mon avis, ça doit être la plus belle parce que quand on devient papa, ça.
RTL. Vos plus belles années. Avec Harry Roselmack sur RTL.
Alors, Harry Roselmack, est-ce que 2007 est ta plus belle année ou pas ? Ou est-ce qu'il y en a plusieurs ? Ou est-ce que c'est celle à venir ? Parce que quand on devient papa, ça compte.
Alors, celle à venir, je l'espère. Ouais. Mais c'est vrai que 2007 restera évidemment une année très, très importante parce que c'est la naissance de ma première fille.
Alors, il y en a combien ? Explique-nous.
J'en ai deux.
T'as deux filles.
C'est ça.
Qui ont ?
Alors, qui auront donc 3 ans en juillet et 2 ans en août.
Comment s'appellent tes princesses ?
Omaya et Yanaël.
Voilà. Et ça, c'était... Tu as assisté aux accouchements ?
Non. J'étais là, mais c'était des accouchements auxquels je ne pouvais pas assister.
D'accord.
Voilà, pour des raisons médicales, etc.
Et, et est-ce que tu as l'intention de créer une fratrie très élevée ? Parce qu'il faut le garçon maintenant.
Faut le garçon maintenant. Bon, allez, je vais vous donner un scoop qui sera donc le scoop de ce mois de juillet.
Le garçon est en route.
Yeah. Wow, joli.
Ça c'est bien. Ça c'est magnifique. Ça alors.
Jamais
ça, 203. Très plaisir. Et il va s'appeler comment le garçon ?
Ah ben ça je vous dis pas.
Non, on a un petit cadeau pour Harry. En fait, on a même deux petits cadeaux.
Alors,
on a l'habitude de remettre des journaux de naissance, justement, journaux de la rédaction d'RTL, voilà. Du jour où ils sont nés, c'est-à-dire
26 août 2008, 27 juillet 2007.
Voilà.
C'est l'actu.
Les journaux de naissance. Oh,
super.
Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Harry en 2007 avait aussi une autre actualité. Il avait écrit son premier roman.
Son premier roman.
Voilà. Et il s'appelait d'ailleurs H.J. Bungo. Hein. Pourquoi H.J. ? Parce que ce sont les initiales des deux prénoms d'Harry. Donc H pour Harry et J pour Joseph. Bungo, je crois que c'est le nom de jeune fille de
ma mère.
De maman, hein, c'est ça. Et le premier roman s'appelait Novilu. Et parmi les auteurs de référence d'Harry, je pense que je ne vais pas me tromper en parlant de Romain Gary.
Non. Hein, c'est un auteur dont j'ai fait la connaissance référence. Tardive.
Ouais.
Mais que.
Avec voilà, un destin incroyable. Ouais.
Mais c'est son vrai nom d'ailleurs Romain Gary ?
Non.
Il s'appelait Romain Cassio. Il a eu d'autres pseudonymes.
Il y a eu Hajar.
Il y a eu Hajar, évidemment. Émile, de son prénom. Alors, je vous propose de l'écouter dans le cadre d'un journal inattendu, hein, puisque Harry présente le journal inattendu sur RTL. Il va nous évoquer les moments les plus intenses de sa vie et il va revenir sur son enfance en Russie. Il était à l'époque l'invité de Jean-Claude Larivoire sur RTL. Romain Gary, pour faire plaisir à Harry Roselmack.
La révolution russe, j'étais couché sur la place rouge, ma mère s'était jetée sur moi parce qu'il y avait quelques francs-tireurs, des balles qui sifflaient. Ensuite, un marin soviétique me tenant sur ses épaules pendant que ma mère jouait en scène pour que je puisse voir ma mère. Le départ de Russie dans les wagons à bestiaux, 3 semaines de voyage comme émigré vers la Pologne. Et finalement, la réalisation du rêve de ma mère, qui était une espèce de folie qui l'obsédait, ce que je devienne français, c'est-à-dire la 3e émigration vers la France.
Et des fois, on se plaint parce que la machine à laver tombe en panne.
C'est un beau document.
Il y a des destins extraordinaires.
C'est un beau document et qui donne une matérialité à des personnages comme ça, qui sont de certains, en tout cas pour moi, emblématiques et mythiques, On a du mal à s'imaginer qu'ils étaient derrière un micro avec ce même logo.
Tes immersions, vous avez fait quoi jusqu'à présent?
Alors, on a fait Derrière les murs de la cité, à Villiers-le-Bel, dans le Val d'Oise. On a fait Les fondamentalistes musulmans avec des salafistes à Marseille. Et on a fait Les sans domicile fixe à Paris. L'important, c'est le travail de repérage au départ. On met 2 mois en moyenne pour trouver nos personnages, pour s'assurer qu'ils seront dans la vérité, que leur discours sera la vérité de ce qu'ils vivent et qu'on est dans quelque chose qui n'est pas manipulé.
Est-ce que tu crois sincèrement que les politiques peuvent être sensibles à ce genre de reportage? Est-ce que ça peut changer quelque chose ou le faire évoluer?
J'espère.
Tu dois y penser, tu dois te dire quand ça va passer, ça, il faudrait que ça puisse servir à quelque chose.
Bien sûr, mais je pense que ça sert toujours à quelque chose. Ça ne changera pas forcément. Faut pas croire non plus que ce qu'on fait va changer la face du monde. Non, ça ne changera pas la face du monde et ça changera peut-être même pas la politique d'un gouvernement. Maintenant, je pense que c'est quelque chose qui marque les gens et qui au moins rappelle où on est et qui rappelle le chemin qui reste à faire.
Un petit document,
tu veux pas un générique télé?
Si tu veux.
Parce que le document surprise, il est passé. On aura une petite pépite RTL.
Non, je crois qu'il y en avait un autre.
Il y aura un petit.
Il y a Générique TV d'abord.
Oui, Générique TV, une émission qui a démarré en 2007. À base de documents avec des couples. C'était diffusé sur M6. Ils suivaient les couples et ils avaient un point commun. Ils s'aimaient, ils avaient décidé de s'unir. Je vous aide quand même, hein. Non, ça vous a pas marqué. Hein.
Après,
c'était 7 ans de mariage. Non, vous vous souvenez pas cette émission documentaire où on suivait les couples, il y avait plusieurs portraits croisés. Pas marqué.
Les couples à la télé,
de couples.
C'est tellement plus, ça doit tellement plus se faire à la maison que je suis un peu.
Bon. Alors on va enchaîner.
Mais il faut de tout.
Hein. Avec le cinéma, film sorti en 2007 évidemment, et on va tout de suite vous planter le décor.
Nous sommes dans le haut Arctique. Voilà plus d'un mois que le soleil a disparu.
C'est un film documentaire?
Exactement.
C'est écologique.
À cette époque de l'année,
c'est la mode.
La nuit est permanente.
Écoute, ça a réuni plus d'1 400 000 spectateurs quand même.
Les pingouins, là?
L'ours polaire part en chasse.
Non, c'était bien avant les pingouins. Là, c'est la chanteuse Angoon qu'on entend pour le commentaire.
Quelle merveille.
Attends.
Celle qui avait interprété La Neige au Sahara en 97.
Et puis chaque fois qu'elle est venue dans les émissions, elle a ébloui tout le monde.
Très très jolie.
Elle est très jolie, elle a un charme, elle a une sensualité, elle est d'une gentillesse.
Et le film ça,
on s'en fout.
Ouais, voilà. On revient sur Terre puisque c'était Un jour sur Terre. Voilà.
Eh ben, écoute, redescendons sur Terre.
Et on va voyager.
Et alors on a une petite pépite.
On va voyager pour la pépite.
Allez.
Je vous propose de nous rendre par la magie des ondes en Martinique et plus précisément sur la route de Savane Petit dans la commune de Morne-Rouge. D'ailleurs, petite question de culture générale, Patrick.
Juste un petit truc avant. Tu y es revenu beaucoup?
Beaucoup, non, parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais j'y reviens de temps en temps.
Tu y es revenu depuis
que t'as fait le journal. Bien sûr.
T'as dû être accueilli comme un dieu là-bas.
Pas vraiment, parce que j'ai fait en sorte que ce soit pas annoncé à l'avance déjà, parce que j'aime pas trop les manifestations comme ça. Ouais,
de foule.
Voilà. Mais et ce qui est particulier, c'est que le peuple martiniquais est un peuple comme d'autres, hein, mais tout en retenue. C'est-à-dire que les gens vous disent des choses. Mais ils ne sont pas dans l'exubérance, ils vont pas vous sauter dessus, ils vont pas vous... Voilà, et ça c'est...
Juste une question très bête, mais tu les sens tes racines quand tu vas là-bas physiquement, physiquement, alors que tu n'y es pas né.
Oui.
Tu dois sentir quelque chose, il y a quelque chose de diffus qui doit, quand tu es sur la terre...
Mais quand vous arrivez à l'aéroport, l'air déjà que vous respirez, les bruits que vous entendez, ça fait quelque chose.
Tu es martiniquais donc.
Et alors la question de culture générale, Patrick, comment appelle-t-on les habitants de Morne-Rouge, justement, l'endroit où on va se rendre?
Savoir, moi je sais pas du tout.
C'est pas facile, hein.
Les Péléens.
Les Péléens, parce que cette commune se situe non loin de la montagne Pelée. Donc c'est pourquoi cette commune? Parce que justement RTL était présent aux côtés des parents d'Harry. Est-ce qu'Harry le savait ça? Non, alors il fait de grands yeux. Et oui, le journaliste.
Et aussi, parce qu'il m'a dit qu'il y avait.
Alors je sais qu'il y avait eu un sonore de fait, une interview de fait, mais je ne me rappelais pas que c'était pendant le journal.
Ben voilà, c'était Florent Aussu qui était là, donc près de Rachel, et Frédéric Roselmack, qui était évidemment très fier de vous en regardant votre premier journal sur TF1. Et on va écouter leur réaction à chaud pendant le journal. Et tout d'abord, votre maman.
Il est comme d'habitude, il n'a pas changé. Là, je le retrouve, là, lui aussi, je sens qu'il est mieux, là. Le gros est passé, donc là, il se sent déjà plus à l'aise. Moi aussi.
C'est une grande fierté de le voir. Je suis
très très satisfait de cette intervention et puis fier de ce poste qu'il a obtenu.
La voix de papa,
c'est un beau cadeau. Ah,
hein. Il a fait de la radio aussi. Hein.
Et il t'a fait dans les gènes, il y a quelque chose. Hein. Ah ben, il a fait de la radio où là-bas ?
Il a fait de la radio à Radio Béton à Tours. Et c'est la première émission de radio dans laquelle d'ailleurs j'ai présenté des flash infos. J'étais au lycée, je devais avoir 15-16 ans. Et voilà.
Il faudra qu'on prenne 2 heures de plus une autre fois pour reparler des radios et de ses débuts à la radio. On a la pub déjà, et puis on a Mika derrière.
Oui, mais c'est un titre qui correspond bien à Harry, hein. C'est relax.
RTL, vos plus belles années avec Harry Roselmack.
Sur RTL, voilà pour finir cette émission en beauté, c'était Relax, Take It Easy.
Voilà, et d'habitude on dit, ben maintenant, voici le journal est attendu.
Avec Harry Roselmack, qui est 12h30, mais non,
il est en vacances.
Mais oui, il est en vacances. Il va revenir sur TF1 quand même dans 8 jours, hein, ce sera à partir du 19
c'est
juillet.
L'absolu pour un journaliste comme toi, il y en a pour qui, c'est justement le journal de 20h, toi c'est fait. L'absolu, c'est un grand reportage, c'est quelque chose loin, c'est quoi ? Tu as quelque chose dans ta tête, une espèce de rêve ? Un film
J'ai pas de projet comme ça ou d'image de projection d'absolu, mais ce que je fais en ce moment en immersion, c'est pour moi ce qui correspond le plus à ce que j'imaginais quand je voulais faire ce métier, pouvoir faire.
Témoin.
Allez, merci. Ciao. Merci beaucoup, Harry, d'être venu jusqu'à nous.
Merci
c'est
à vous.
C'est vrai que Harry se fait rare quand même dans les médias, il a accepté.
Je suis ravi.
Et on est ravis. Hein, parce que
je suis moi aussi.
Ça fait longtemps qu'on souhaitait le recevoir. Patrick, on va se dire à demain pour de nouvelles aventures. Et demain, ce sera la dernière. Vous écoutez RTL, il est 12h30.